Les midis de culture, c'est reparti. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec Colline Serrault. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La crise climatique charge l'archéologie de nouvelles missions, ou plus précisément, d'une urgence supplémentaire à leur mission, car la montée des eaux efface rapidement les restes des civilisations anciennes. En Alaska, par exemple, le peuple Yupik voit chaque année les traces de son histoire disparaître. Un duo, une journaliste et une archéologue témoigne à la fois de la richesse esthétique et historique de ce peuple via un journal d'urgence qui vient de paraître aux éditions du Seuil. L'archéologie salvatrice des mémoires, c'est le dossier du Point Culture du jour. Charlotte Fauve, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes journaliste à Télérama et autrice. Vous avez co-signé avec l'archéologue Claire Oumar Alaska, l'usure du monde qui vient de paraître aux éditions Albertine au Seuil. Vous définissez cet ouvrage dès les premiers mots comme un journal d'urgence. Alors qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors effectivement, ce journal raconte le quotidien d'une part d'une fouille archéologique, mais aussi d'un village qui se nomme Quinao, qui est sur les bords de la mer de Mering, donc au sud-ouest de l'Alaska. Il se trouve que le peuple qui l'habite, qui est le peuple Yupik, vit littéralement à l'avant-poste de la crise climatique. C'est-à-dire que c'est une crise qui est en train de redoubler d'intensité et qui fait vaciller le village tout entier. Donc, c'est-à-dire que d'une part, il y a effectivement la montée de la mer de Bering, mais il y a aussi les tempêtes qui redoublent d'intensité et aussi le permafrost qui fond. Donc, ce sol gelé depuis des millénaires, et qui vraiment fragilise ce village. D'ailleurs, les Yupit ont donné un nom à ce phénomène. Ils le nomment Oustek, chez eux, qui signifie en fait l'effritement, l'usure du socle stable du monde. Et c'est un terme là-bas que les scientifiques ont repris pour décrire les dégâts. Et c'est ce titre aussi qu'on a repris pour le livre.
Mais en quoi l'archéologie est une discipline qui peut permettre justement de contrer un peu cet effritement ou cet effondrement ?
Alors justement, il faut voir qu'en fait, ces peuples sont aussi, à cause de la crise climatique, sont aussi en train de perdre leur passé. Parce qu'en fait, il y a eu peu de fouilles archéologiques en Alaska. Et il y a énormément de vestiges, dont ce vieux village qui se nomme Nunalek, qui est, entre guillemets, prisonnier de la tourbe à quelques kilomètres du nouveau village. Et donc, d'une part, ils sont en train de perdre leur passé, donc au-delà leur mémoire qui est en train d'être emportée par les vagues, mais aussi leur identité. Et c'est vrai que personnellement, je trouve ça. Est-ce qu'on peut accepter justement que ces peuples perdent leur identité dans une crise climatique dont ils n'ont absolument aucune part? Et c'est là que l'archéologie est importante parce qu'elle permet de relier ce peuple à son passé, à sa mémoire. Et au-delà, je pense que c'est vraiment important parce que justement, c'est des territoires absolument fabuleux, mais qui sont dans la toundra, qui est un lieu très particulier où il y a peu de ressources. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'ardoise, c'est de l'os, c'est des herbes. Et en fait, pour moi, c'est vraiment les premiers gestes de l'humanité. C'est des modes de vie qui sont proches du paléolithique. Et finalement, on est en train de perdre un patrimoine collectif. Immense.
Mais quand vous dites que ce sont les peuples autochtones qui se rendent bien compte que leur mémoire est en train d'être perdue à cause du dérèglement climatique, est-ce que ce sont eux qui font appel aux archéologues pour justement essayer de préserver ce qui peut l'être encore ?
Oui, alors justement, dans le cas de Quinaok, cette fouille est très particulière parce que c'est une fouille communautaire qui a été lancée par les habitants avant même que le village ait l'eau courante, parce que justement des artefacts ont commencé à émerger du sol du fait de l'érosion, du fait que ce site en bord de mer était emporté par les vagues. Et donc il y a un masque chamanique absolument incroyable qui s'est retrouvé vendu à un pêcheur. Et ça a entraîné ensuite une prise de conscience d'une part de la fragilité de ce site et de l'importance de le sauvegarder et de garder les artefacts là où ils ont été tirés de la tourbe, c'est-à-dire dans le village. Donc maintenant, il y a un petit musée communautaire. Et c'est ce site, en fait, qui est fouillé depuis 10 ans par une fouille internationale. D'abord, il y a eu un archéologue qui s'appelle Ritnesh qui était à sa tête. Et ensuite, ce sont Claire Oumar et donc la mission française qui sont arrivées et qui ont participé à cette fouille. Et donc moi, je me suis, entre guillemets, intégrée à cette fouille archéologique.
Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous êtes journaliste, notamment journaliste littéraire. Comment vous vous êtes retrouvée à suivre des fouilles archéologiques en Alaska ?
Alors c'est vrai que c'est une histoire assez folle parce que donc à la base Claire Oumar et moi même nous sommes toutes deux lauréates de la Villa Albertine qui est un programme donc de résidence aux États-Unis en soutien à la création française. Moi j'étais sur un tout autre sujet, sur la Floride et sur la chasse aux pitons, mais il se trouve que dans la vraie vie donc je suis journaliste à Télérama et que j'écris depuis 10 ans sur l'archéologie, donc c'était des thèmes qui me passionnaient et lorsque j'ai entendu parler donc de cette fouille, j'ai vraiment souhaité rencontrer Claire Oumar. Et en fait, je suis partie là-bas pour un premier reportage qui littéralement a changé ma vie. Hein. C'est des fois des choses qu'on ne présage pas à l'avance. Mais il s'est bien trouvé que d'avoir une journaliste sur le terrain de cette fouille où finalement l'archéologie est vivante en fait, parce qu'elle fait en permanence le lien entre un passé qui disparaît et un présent qui est complètement chamboulé, faisait que moi je pouvais faire le lien avec les Youpites. Et je me suis retrouvée membre de cette mission archéologique à travailler, on va dire, avec les archéologues, même si moi je ne sais pas fouiller. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai mis les mains dans la tourbe pour aider, mais mon plus, ça a été vraiment de pouvoir recueillir leurs paroles et de faire ce lien entre le passé et le présent.
Il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce livre-là, c'est que vous signifiez hein, dès le début que le peuple Yupik est de tradition orale. Alors, est-ce que c'est un exercice particulier pour vous de choisir justement l'écrit pour en parler?
Alors justement, oui. Alors il faut voir que c'est un peuple de tradition orale parce que donc avant l'arrivée des missionnaires et des marchands, donc au mi-temps du 19e siècle, toutes les paroles étaient échangées vraiment dans une oralité. Et il faut voir que la toundra c'est un milieu très exigeant, c'est-à-dire que les dangers sont permanents, qu'il y a une sorte, c'est vraiment de la terre et de l'eau, et que si on veut survivre, il faut transmettre les informations avec une très grande précision. Et c'est pour ça que notamment la parole des anciens et ce qu'ils appellent les karuyun là-bas, donc c'est-à-dire les mots pour vivre, doivent entre guillemets se passer, s'échanger de l'ancienne à la nouvelle génération avec des détails. En fait. Et donc moi, évidemment, je ne suis pas Yupik, mais le fait d'avoir ce rapport à la parole, au fait de vouloir les recueillir, ben, m'a mis dans une sorte de position où ils comprenaient complètement, je pense, ce que j'étais en train de faire. Donc moi, ils m'ont donné un nom qui signifie Agayur, donc raconteuse, mais qui m'a permis aussi de... Finalement, j'ai reçu leur confiance et le fait de faire un livre, c'était en quelque sorte permettre aussi que ces paroles soient entendues dans d'autres lieux, dans un monde qui n'est pas en train de vaciller ou pas tout à fait de la même façon.
Oui, c'était aussi une façon de faire perdurer la mémoire.
Exactement, voilà.
Peut-être une dernière question pour finir cet entretien, Charlotte Fauve. À quoi ressemblent les artefacts qui sont sortis de terre quand vous y étiez? Vous parliez d'un masque chaman, mais visuellement, esthétiquement, comment vous pourriez les décrire en quelques mots?
Alors, les artefacts donc, qui sont sortis de terre à Nunaleg, donc dans le vieux village, sont absolument extraordinaires. Il y en a, enfin, je crois, le musée en conserve 100 000 actuellement. C'est à la fois des objets usuels de la vie de tous les jours, ça peut être des bols, mais aussi des objets qui sont plus spirituels, donc comme les masques chamaniques. Je pense que Claire Oumar en parlerait mieux. Moi, ce qui m'a touchée, c'est que ces masques, en fait, pour moi, c'était donc c'est les rêves des chamans, c'est les animaux, les visions qui leur sont apparues en rêve. Et le fait de pouvoir les empêcher de pourrir et les sauver, pour moi, c'est en quelque sorte aussi de protéger les rêves de ces peuples.
Bien, merci beaucoup, Charlotte Fauve. Je rappelle que votre livre que vous co-signez avec Claire Oumar, Alaska, l'usure du monde, vient de paraître aux éditions Albertine au Seuil. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la rénovation de l'Opéra Bastille pourrait coûter 400 millions d'euros.
C'est l'estimation avancée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, somme nécessaire, car la Seine, notamment, menace de s'écrouler. Les travaux pourraient s'étaler sur 10 ans, mais l'État ne serait pas le seul à assurer cette dépense, qui doit aussi être financée par les réserves, la capacité d'autofinancement de l'Opéra, ainsi que le mécénat. Les travaux de l'Opéra Garnier vont, eux, commencer à l'été 2027 et obliger le site a fermé pour 2 ans.
Et pour finir, le prix mondial Chino del Duca 2025, deuxième prix le plus important après le prix Nobel, a été remis à Boualem Sansal.
Le prix doté de 200 000 euros a été décerné par la fondation del Duca pour récompenser l'ensemble de l'œuvre de l'écrivain franco-algérien détenu en Algérie depuis novembre 2024 et dont la date du procès en appel vient d'être fixée au 24 juin prochain. Le prix vise, je cite, à rendre hommage à la force d'un écrivain qui, par-delà les frontières et les censures, continue de faire entendre une parole libre, profondément humaniste et résolue. Nécessaire.
Merci Marie et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.